franceinter.fr.
Sébastien Paour pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Notre-Dame-des-Landes est mort, la doyenne des centrales nucléaires se meurt, Fessenheim, prévu pour fermer dans un an. Le ministre Sébastien Lecornu entame les discussions sur l'avenir du site. Nous sommes sur place. Des trous d'air à prévoir encore dans le bocage nantais. Tous les zadistes ne sont pas prêts à plier bagages et certains pourraient trouver à Bure un autre terrain à défendre. Au sommaire également ce soir, des mesures pour les éoliennes, trop souvent contestées. La 380 sauvé par une nouvelle commande d'Emirates, Woody Allen, de nouveau accusé par sa fille adoptive. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, on parle de déserts médicaux. Peut-être que vous devez courir sur des kilomètres pour trouver un généraliste quand ailleurs ils sont trois dans la même rue. Mais comment faire? Obliger les médecins à s'installer là où ils ne le souhaitent pas, comme les profs par exemple. On n'en prend pas le chemin. On parle de numerus clausus évidemment. On parle de télémédecine. Qu'est-ce que vous en dites? 01 45 24 7000.
France Inter.
Notre-Dame-des-Landes ne deviendra pas un aéroport. Que faire de Fessenheim, la doyenne des centrales nucléaires, quand elle fermera théoriquement dans un an? Le gouvernement sait qu'il a là encore un dossier délicat à gérer. Il envoie un ministre en Alsace pour la première fois depuis 6 ans. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, qui vient installer un comité de pilotage sur la reconversion du site. Bonsoir Célia Quilleret.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes à la préfecture de Colmar, Célia, où la première réunion avec les syndicats vient de se terminer.
Oui, plus de 3h30 exactement de réunion ici. Et finalement, Sébastien Lecornu a plutôt bien réussi cette première épreuve lors de son déplacement dans le Haut-Rhin, puisque les syndicats ont trouvé un secrétaire d'État pragmatique, très à l'écoute. Et finalement, il les a ce soir presque anesthésiés. Alors Sébastien Lecornu dit bien qu'il n'est pas Superman, il ne va pas tout résoudre en 3 jours. Mais ici, les syndicats n'avaient jamais été écoutés depuis 2012. Et aujourd'hui, ils sont résignés sur la fermeture de cette centrale. Il faut donc, disent-ils, envisager la suite. Alors à EDF, les 850 salariés seront reclassés, mais il reste un problème majeur pour les 330 employés en sous-traitance. Et surtout, il faut bâtir un avenir pour ce site industriel. Ici, les élus rêvent d'énergie renouvelable, mais on en est loin. On a un site pilote de démantèlement du nucléaire. Alors demain sera installé ce comité de pilotage ici à la préfecture, et il disposera d'un an pour réellement tourner la page de cette centrale nucléaire, vous le disiez, hein, la plus vieille du parc français.
C'est l'IA qui rêve, et cela même qui fait aussi rentrer chaque année 15 millions d'euros de recettes fiscales dans les caisses des collectivités locales. Merci Célia. Notre-Dame-des-Landes, c'est donc réglé, projet abandonné, même si les turbulences ne sont pas terminées pour autant, on va y venir dans un instant. Mais voici d'abord le commentaire de celui qu'on présente comme le ministre victorieux du gouvernement, celui de la transition écologique, Nicolas Hulot. Triomphe modeste au micro de Catherine Pétillon de France Culture.
C'est un ensemble de paramètres qui a conduit Édouard Philippe à prendre une décision qui est la moins mauvaise décision, parce que c'est une décision d'apaisement, c'est une décision de sagesse. La décision, elle n'est pas parfaite. Elle suscite de la colère, mais elle suscite aussi du soulagement. Je suis convaincu d'abord qu'il y a une grande vertu, c'est qu'au moins maintenant on bouge, parce que ça paralysait beaucoup le territoire qui était en attente d'une décision. Effectivement, cette décision pour les élus qui, de bonne foi et d'une manière rationnelle, avaient souhaité cet aéroport, peuvent être considérés comme une décision injuste. Mais l'avenir nous montrera qu'il n'y avait pas que une alternative. Donner au Grand Ouest une mobilité plus fluide pour accéder notamment au hub, pour accéder aux plateformes aéroportuaires, on va y trouver d'autres solutions. Nantes Atlantique est une partie de la solution. Rennes, Brest, la fluidité des correspondances de TGV, tout ça, je pense, va nous permettre de quand même de concilier tous les points de vue et puis de revenir à une situation, je l'espère, d'ordre public.
Alors l'ordre public, on n'y est pas encore, la ZAD n'est pas encore évacuée, il reste une route à rendre à la circulation avant la fin de semaine prochaine, et le gouvernement donne aux zadistes jusqu'à fin mars avant de les expulser par la force. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Lendemain de victoire à Notre-Dame-des-Landes, mais la lutte n'est pas terminée, tout le monde ne partira pas.
Et non, certains sont là depuis des années et l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes n'était plus leur seule motivation. Un slogan résume parfaitement leur état d'esprit, non à l'aéroport et au monde qui va avec. C'est donc une deuxième phase de leur mobilisation qui commence pour rester vivre sur place, conserver cette expérimentation de micro-société, cultiver, produire, consommer autrement, plus proche de la nature, dans la lignée des mouvements comme le Larzac. Mais pour rester, eh bien, il faut négocier avec l'État, et pour beaucoup, c'est se faire violence. Il faudra bien aussi faire des compromis et ainsi risquer de faire éclater ce mouvement très disparates. Le premier test, c'est la réouverture de la départementale 281 qui traverse la ZAD et qui est devenue depuis des années un symbole d'occupation. Vous le disiez, l'État a posé un ultimatum à la fin de la semaine prochaine.
Et ceux qui partiront de Notre-Dame-des-Landes, merci Sandy avec Nicolas Mathias, ceux qui partiront d'eux-mêmes ou par la force, que vont-ils faire? Où vont-ils aller? Les élus de la Meuse craignent de les voir arriver à Bure pour s'opposer au projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Les activistes sont déjà une trentaine à occuper la zone, en contact avec ceux du bocage nantais. Mohand Chibani, un rassemblement des deux mouvements pourrait avoir lieu le mois prochain.
Pour l'instant, ils ne sont qu'une poignée de zadistes, environ une trentaine, à occuper un ancien corps de ferme baptisé Maison de la Résistance. Certains cultivent même quelques lopins de terre pour y faire pousser des légumes. Mais lors des manifestations, ils peuvent rassembler jusqu'à 300 personnes, ce qui fait dire à Irène, l'une des activistes, que le mouvement prend de l'ampleur.
On est en train de marquer des points tous les jours, là. C'est forcé, les gens commencent à nous rejoindre.
Et avec l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Jacques, porte-parole du collectif des citoyens opposés à Cigéo, espère que Bure deviendra le nouveau lieu de lutte nationale.
La solution de Bure, c'est une solution locale à un problème national. Donc effectivement, les politiques ont tout intérêt à marginaliser le combat des buriens et il faut que tous les citoyens se rebellent.
Le risque de voir la ZAD de Bure se renforcer par les militants de Notre-Dame-des-Landes est réel, s'inquiète Stéphane Martin, le maire de Gondrecourt-le-Château, l'une des communes situées autour de Bure. Il demande à l'État de ne pas laisser faire.
On pourrait effectivement craindre que certains zadistes de Notre-Dame puissent se rapatrier sur le secteur de Bure. On sait que c'est un point de contestation majeur au niveau national.
Plusieurs dizaines de gendarmes mobiles sont sur place depuis cet été. Les zadistes dénoncent un acharnement et une pression permanente dont ils font l'objet.
Reportage Mohand Chibani, France Bleu, Sud Lorraine. Là aussi, ça risque de bloquer sur la question de l'indemnisation de Vinci, le groupe de BTP qui devait construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une première réunion pour faire baisser la facture a eu lieu hier soir. Le PDG de Vinci a été reçu ce soir à Bercy. Vinci avait signé fin 2010 un contrat de 55 ans qui couvrait l'exploitation des aéroports de Nantes et de Saint-Nazaire et la construction de celui de Notre-Dame-des-Landes.
Aller plus vite que le vent.
On ne parle plus d'avions, mais d'éolien, dont l'État veut accélérer le développement en réduisant les recours contre les projets. Delphine Simon, il supprime un niveau de juridiction pour le traitement des contentieux pour gagner du temps et rattraper le retard de la France dans ce secteur.
Oui, c'est quasi systématique. Les deux tiers des autorisations d'éoliennes sont contestées devant les tribunaux administratifs. Dans l'immense majorité des cas, ces recours sont rejetés, mais cela entraîne de très gros retards. Un parc éolien met en moyenne 7 à 9 ans pour sortir de terre en France. C'est deux fois plus qu'en Allemagne. Le gouvernement va donc supprimer un niveau de juridiction. De quoi gagner au moins 2 ans, explique Pauline Lebertre, la déléguée générale de France Énergie Éolienne, qui regroupe les professionnels.
Ça permet uniquement d'accélérer le traitement des recours. Donc ça veut dire d'accélérer la sortie des projets sans revenir sur le droit au recours. Ça nous permet de nous rapprocher de la moyenne de nos voisins européens.
Pour encourager les communes d'implantation, 20% des taxes leur seront désormais réservées. Quant à l'inquiétude des riverains, incommodés par les nuisances lumineuses des éoliennes la nuit, le gouvernement fait un pas dans la bonne direction.
Aujourd'hui, les parcs clignotent. Demain, grâce aux mesures qui ont été prises ce matin, on aura une partie du balisage qui sera fixe et le reste qui sera encore clignotant. Ça permettrait en tout cas d'apporter un vrai confort pour les riverains.
Les éoliennes produisent à peine 5% de notre électricité. Avec ces mesures, on pourra viser, selon elles, la fourchette haute des objectifs d'énergie pour 2023.
Et voilà qui devrait achever de convaincre les récalcitrants aux énergies renouvelables. Les 3 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées, d'après l'Organisation Météo des Nations Unies, qui décrit un rythme de réchauffement planétaire exceptionnel sur la période.
Londres met la main au portefeuille pour la sécurité à Calais.
Le gouvernement britannique augmente sa contribution à la frontière de 56 millions d'euros, frontière fixée à Calais depuis 2004 par les accords du Touquet, et pour laquelle le Royaume-Uni a déjà versé 113 millions d'euros ces 3 dernières années. C'est l'une des annonce au sommet franco-britannique qui se tient à l'Académie militaire royale de Sandhurst, à 50 km au sud-ouest de Londres. Cadre strict, Antoine Gignot, pour parler coopération en matière de sécurité.
Quelques notes de la Marseillaise et Emmanuel Macron disparaît au milieu d'une armée de bonnets à poil et de chapeaux à plumes, suivi par Theresa May, le président de la République, à côté de la Première ministre, entouré des bataillons d'infanterie. C'est sans doute l'image que le Royaume-Uni espérait donner de ce sommet, le symbole d'une coopération militaire destinée à se poursuivre après le Brexit. Nous quittons l'Union européenne, répètent les membres du gouvernement ici, mais nous ne quittons pas l'Europe. Preuve de cette coopération en matière de sécurité et de défense, le Royaume-Uni va envoyer 3 hélicoptères pour appuyer la force Barkhane au Sahel. La France va en échange dépêcher des soldats pour renforcer l'unité britannique présente en Estonie. Et puis, les deux pays prévoient de travailler ensemble à la construction d'un drone de combat. Les ministres de la Défense en parlent en ce moment. Enfin, même si les échanges sont beaucoup plus discrets, l'autre enjeu en matière de sécurité, c'est la coordination des services de renseignement. Il y a eu, en amont de ce sommet, mais une rencontre inédite, une réunion des chefs des 5 services de renseignement britanniques et français. Le porte-parole du gouvernement au Royaume-Uni parle de la nécessité de travailler ensemble dans un contexte d'attentat, dans le prolongement du plan signé au mois de juin dernier entre les deux pays et qui prévoit de surveiller les activités terroristes sur Internet. À Sandhurst, dans le Kent, Antoine Gignot, France Inter.
Il est 19h11, Julien Drey, encore un peu plus près d'une candidature à la tête du PS.
Oui, le conseiller régional socialiste pense se lancer, mais il veut d'abord prendre le temps de construire une solution collective. La maire de Lille, Martine Aubry, soutient, elle, Olivier Faure. Au Front National, on réfléchit à un nouveau nom, mais pas encore de souci de gouvernance. Et le nouveau cheval de bataille du parti de Marine Le Pen, bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
C'est la route. Le gouvernement vient de choisir de faire baisser la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Le FN lance son forum route nationale, évidemment.
Oui, c'est l'une des nouvelles habitudes du FN pour préempter certaines thématiques, créer des collectifs ou cette fois un forum. Le principe est simple, faire monter la sauce. Là, c'est sur la route et pour le politologue Jérôme Fourquet, c'est plutôt un bon choix, ça parle à leurs électeurs. Et les Républicains ont mis du temps à dégainer sur le sujet. C'est donc l'arme idéale de Marine Le Pen pour revenir dans la lumière, en finir avec cette convalescence post-présidentielle. La patronne du FN offensive, présente comme jamais dans les couloirs de l'Assemblée nationale, répondant volontiers aux journalistes. La tactique surfait sur l'actualité, sur les fondamentaux du parti. Sur la sécurité routière, c'est une rhétorique bien rodée. L'automobiliste Vachalet versus le gouvernement.
À trop vouloir sauver le soldat radar, nos gouvernements ont perdu toute crédibilité. La politique du gouvernement de M. Macron est méprisante et hostile envers les classes moyennes et populaires, envers cette France périphérique qui travaille dur sans avoir les moyens d'utiliser à volonté nos coûteux TGV et autoroutes.
La persécution des automobilistes, une vieille marotte du Front National. En 2002, Jean-Marie Le Pen employait déjà ces mêmes mots. Pour sa fille, c'est en tout cas un succès puisque la pétition lancée la semaine dernière compte 43 000 signatures déjà. Mais est-ce suffisant pour remettre le FN sur les rails? Trop tôt pour juger, dit Jérôme Fourquet. Pour l'instant, ils en sont juste à reprendre la parole.
Élodie Forêt.
C'est parti pour les états généraux de la bioéthique.
6 mois de discussion pour réviser la loi de 2011 avant un texte au Parlement à l'automne. Procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, mais aussi congélation des ovocytes ou suicide assisté. Les sujets sociétaux sont sensibles, Daniel Messager, et les avis changent.
C'est parce que la société évolue rapidement que la loi de bioéthique doit être révisée régulièrement, mais la société aussi évolue et peut-être même encore plus vite sur la gestation pour autrui, par exemple, qui aurait dit il y a encore quelques mois que la majorité des Français y serait favorable. C'est pourtant ce qui ressort d'un sondage IFOP début janvier, qui aurait dit qu'il pouvait y avoir une GPA éthique. C'est pourtant ce que laissent entendre 110 signataires, médecins, sociologues, historiens, dans une tribune. Alors la GPA, dont les partisans de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes osaient à peine prononcer le nom de peur que ça leur porte préjudice, sera peut-être au centre des débats. De quoi ragaillardir les membres de la Manif pour tous qui ont déjà, via des affichettes, commencé la campagne contre l'absence de père qu'entraînerait l'accès de la PMA à toutes les femmes. Et pourtant, ce que souhaite le comité d'éthique, c'est un débat sur tous les sujets, au-delà de la procréation, qu'on parle aussi de l'intelligence artificielle ou du stockage des données de santé. Sera-t-il entendu? Il serait intéressant de suivre ces débats pour voir quels seront les sujets mis en avant par la société et ne nous dédouanons pas par la presse.
La majorité des syndicats de PSA donnent leur feu vert au projet de rupture conventionnelle collective du constructeur. 1300 départs volontaires que permet la récente réforme du Code du travail. Le projet d'accord prévoit autant d'embauches en CDI cette année. Il doit être signé demain. Emirates redonne de l'air à l'A380. La compagnie du Golfe commande 20 gros porteurs d'Airbus et met une option pour 16 autres. 13 milliards d'euros au prix catalogue. L'A380 a donc encore de l'avenir et son responsable marketing retrouve le sourire.
C'est une excellente nouvelle. Elle était importante dans la mesure où c'est un client qui peut s'engager sur une durée assez longue, sur des avions qu'on commence à construire un peu plus de 2 ans avant la date de leur livraison. Donc c'était important d'avoir une commande de ce type, de manière à assurer sur les 10 prochaines années qu'on aura une base de production suffisante, minimale peut-être 10 ans, sur laquelle construire avec des commandes supplémentaires d'autres compagnies aériennes. Comme tous les avions qui sont bien nés, qui ont trouvé leur premier succès sur le marché, il évoluera avec la disponibilité de nouvelles technologies. C'est comme toujours, il faut avoir une conjonction d'une demande de marché, d'une offre suffisamment attractive, c'est-à-dire d'avoir un moteur qui a suffisamment évolué par rapport au moteur qu'on connaît actuellement pour faire une différence significative. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Richard Carcaillet, chargé du marketing de l'A380 avec Stéphane Iglesis. Emirates est de loin le premier client de l'A380. 142 appareils sur les 317 sorties d'usine. Mathieu Gallet se défend après sa condamnation à 1 an de prison avec sursis pour favoritisme quand il dirigeait l'INA. Son sort devrait être tranché d'ici 2 semaines par le CSA. Et en attendant d'être entendu par l'instance de l'audiovisuel, le PDG de Radio France répond à sa ministre de tutelle, Françoise Nyssen. C'était tout à l'heure à la présentation des mesures d'audience, ici dans la Maison Ronde, et au micro de Sébastien Sabiron.
Je conteste, mais vigoureusement, les intentions qui me sont prêtées. Jamais je n'ai souhaité, directement ou indirectement, ne pas respecter les règles des marchés publics lorsque j'étais président de l'INA. Dans ma conscience, je suis tranquille. Et dans mon honneur, je suis atteint. Donc la lourdeur de la peine qui m'a été infligée, je la conteste vigoureusement et je me défendrai jusqu'au bout pour que mon honneur soit rétabli. J'ai toujours veillé à ce que l'indépendance de Radio France ne soit en rien affectée. J'ai aussi un sens de l'État, un sens du service public. Et donc qu'on n'aille pas me chercher sur l'éthique, qu'on n'aille pas faire des leçons de morale quand on se comporte comme certains peuvent se comporter ces derniers temps.
30 ans de prison requis contre la veuve noire de la Côte d'Azur, jugée à Nice pour avoir empoisonné plusieurs hommes. 2 en sont morts. L'avocate générale décrit une psychopathe perverse narcissique. Verdict attendu dans la soirée.
Allez, le tennis avec l'exploit de Julien Bento pour sa dernière saison sur le circuit.
Il élimine le Belge David Goffin, 7e mondial au 2e tour de l'Open d'Australie. Qualification aussi pour le 3e tour de Richard Gasquet. Pas de miracle en revanche pour Tsonga, battu encore une fois par Djokovic. Élimination aussi de Stan Wawrinka. Woody Allen dément une nouvelle fois les accusations de sa fille adoptive qu'il accuse d'abus sexuels quand elle avait 7 ans. Elle en a aujourd'hui 32 et réitère ce qu'elle disait en 92. Elle profite cyniquement du mouvement anti-harcèlement né de l'affaire Weinstein, répond le réalisateur qui n'a jamais été poursuivi et qui parle d'allégations discréditées. Néanmoins, plusieurs acteurs et actrices prennent leur distance, dont la vedette de son prochain film, Timothée Chalamet, qui regrette d'avoir travaillé avec lui. Alors est-ce la fin de la carrière de Woody Allen? Pas sûr du tout, comme l'explique le producteur Charles Gilibert.
Woody Allen est très installé en Europe, c'est-à-dire qu'il a historiquement financé ses films en Europe, eu sa reconnaissance en Europe. Les territoires européens qui réagissent de façon peut-être un petit peu plus mesurée à ces scandales, en tout cas on voit à quel point il est absolument impossible pour un certain nombre de réalisateurs, d'acteurs, de producteurs à Hollywood de retravailler aujourd'hui suite à des affaires qui sont sorties sur eux. Aujourd'hui, Woody Allen, il est accusé d'avoir fait quelque chose, c'est vraiment une question de justice, il est présumé innocent. Beaucoup d'autres personnes aux États-Unis ne pourraient plus néanmoins faire de films ou travailler dans le cinéma. Et lui, peut-être de sa position sur le territoire européen, un territoire qui est peut-être un petit peu plus conciliant sur ce sujet, il peut éventuellement continuer à faire des films. Donc ce qu'il pouvait, dans le passé, protéger Woody Allen économiquement, le protégera peut-être dans un certain sens moralement par la suite, quoi.
Le producteur du film Mustang, Charles Gilibert, avec Sébastien Sabiron. Woody Allen a 82 ans. Enfin, merci à vous, auditeurs de France Inter. Vous êtes 6 200 000 à nous écouter tous les jours, d'après Médiamétrie, ce qui fait de votre radio la seule généraliste en hausse. Inter, toujours la plus écoutée, matin, midi
Et soir. C'est ça qui est bien, Sébastien. Merci beaucoup. À demain. La suite du 18-20, c'est le téléphone sonne. On parle de déserts médicaux ce soir. Comment y remédier? La méthode coercitive ne semble pas retenue. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Télémédecine, maison de santé, quid de ce fameux serpent de mer qu'est le numerus clausus? C'est à vous de jouer. 01 45 24 7000. La météo d'abord.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Élodie Kellac, ça va pas mal, mais enfin encore de la pluie demain.
Oui, entre le Pays Basque, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, on retrouvera une autre perturbation avec un ciel gris, parfois pluvieux, des averses l'après-midi. Il neigera vers 800 mètres sur les Alpes, le massif central, 1200 mètres sur les Pyrénées. Ailleurs, ce sera un ciel d'averses changeant, c'est sur le nord-ouest que les averses seront les plus nombreuses le matin. Et puis elles se décaleront vers l'est en permettant d'ailleurs le retour d'éclaircies entre la Bretagne, les Charentes, le centre, la région parisienne et le nord de la Seine l'après-midi. Ce sera de la neige à basse altitude sur le nord-est, jusque sur le plateau Lorrain.
Et on ira chercher le soleil dans le sud-est alors?
Oui, du Roussillon jusqu'au sud des Alpes et sur l'est de la Corse également, avec du vent jusqu'à 70 à 90 km à l'heure. On aura moins de vent ailleurs, des pointes à 50, 60 km à l'heure. Et puis il fera un peu plus frais, 1 à 5 degrés le matin, 6 à 10 tout de même de l'Aquitaine à la Corse. L'après-midi, on se rapprochera des valeurs de saison sur les régions du nord avec 5 à 10 degrés. Et ce sera encore plus doux au sud avec 9 à 18 degrés.
Merci beaucoup Élodie Kellac de Météo France.